So, liebe Gäste,
chers invités, chère Madame la Ministre Présidente, Madame Rehlinger, cher Monsieur Aski, cher Monsieur Krasmuk et chère Hélène, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Et chère Madame la Ministre Présidente, Madame Rehlinger, c'est un plaisir tout particulier d'être accueillie ici sur vos terres, pour ainsi dire, et de vous souhaiter la bienvenue à cette session. Vous êtes tous invités de la Fondation Genshagen, mais plus encore du Prix franco-allemand du journalisme, ainsi que de la Fondation Robert Schuman, qui sont tous nos partenaires pour l'organisation de cet événement que nous prévoyons une fois par an, de manière traditionnelle, et qui, en Allemagne, est organisé par nous, la Fondation Genshagen, et en alternance par la Fondation Robert Schuman en France, qui coopère d'ailleurs aussi avec nous lorsque nous organisons l'événement en Allemagne. En principe, nous avons l'habitude d'organiser ce débat européen en parallèle de la remise du prix franco-allemand du journalisme et de la remise du prix franco-allemand des médias. Cette année, cela n'a pas été possible pour diverses raisons, mais nous avons tous été d'accord sur le fait qu'il était essentiel d'organiser maintenant, d'ores et déjà, un débat européen sur ce thème, à savoir l'Europe dans le collimateur, renforcer la cohésion à l'ère de la désinformation et des ingérences. C'est un titre qui cache beaucoup d'aspects que nous allons certainement soulever ce soir. Il existe effectivement une cohésion en Europe. Il existe également une cohésion, et l'un ne va pas sans l'autre, dans nos sociétés et entre nos sociétés. Ces deux éléments sont fort menacés et mis à mal dans un contexte où les tensions internationales sont multiples, les crises diverses, et par des acteurs qui, tous n'ont aucun intérêt à ce que l'Europe se consolide et soit plus forte. Et c'est dans ce contexte que nous faisons face à des tensions multiples, entre d'un côté l'Europe qui est soutenue ou souhaite être accompagnée par ce partenaire transatlantique que sont les États-Unis, jusqu'à la destruction même des intérêts de l'Europe et de la prise en compte de la Russie. Il existe plusieurs crises, comme je le disais, et ce que nous voyons ne fait que cacher d'autres aspects essentiels. Il y a cette idée de propager des narratifs, des récits en Europe, comme celui de M. J.D. Vance, que nous avons entendu il y a quelques mois lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Et ce type de récit, de narratif, présente même l'avantage que nous avons tendance à mettre l'Europe dans le collimateur, où l'on constate que les démocraties sont mises à mal dans cette Europe. Il existe plusieurs facteurs qui montre que tous ces éléments, toutes ces informations ne se basent pas sur des faits. Et ce contrôle des faits, cette vérification des faits, ceux qui vérifient les faits ne peuvent que difficilement parfois faire leur travail. Et le fait que ces narratifs et ces récits de la communauté européenne sont plus que jamais remis en question. On se trouve dans une position d'attaque, d'une position défensive. Et pour trouver un consensus commun, pour aller au-delà de ces amalgames, il faut dépasser les provocations, mais aussi les idées reçues que nous avons ici et là. Et pourtant, nous n'avons pas encore évoqué le sujet de la désinformation et des campagnes visant à nourrir cette désinformation, comme celle de M. Poutine, où il s'agit de mettre en avant ce pluralisme démocratique pour mieux le détruire. La désinformation est ici depuis longtemps devenue l'instrument de ces guerres hybrides. Une part de cette opinion publique que l'on souhaite diriger et que l'on souhaite influencer. Et cette tentative de déstabiliser cette cohésion européenne, elle se fait aussi de l'intérieur de notre Europe, depuis nos sociétés, à la base de nos sociétés, et parfois même accompagnée par certains pays membres de cette Union européenne. Donc cette palette de d'acteurs, de tous ces acteurs qui mettent l'Europe dans ce collimateur est donc très diverse. Le prix franco-allemand du journalisme a ces dernières années très souvent évoqué cette désinformation, cette mise à mal des démocraties et le rôle des journalistes dans ce contexte. Pour nous, à la Fondation Genshagen, nous attachons particulièrement à l'avenir de ces démocraties en Europe, un sujet qui a été récurrent durant ces dernières années dans nos programmes. Créé au début des années 90, à une époque où les démocraties signifiaient aussi une liberté d'expression, à une époque où nous cherchions à créer justement cette démocratie comme standard européen, la Fondation Genshagen représente ce dialogue européen depuis plus de 30 ans et a pour objectif de promouvoir et d'encourager l'entente et l'échange entre pays européens. Donc depuis des années, nous organisons régulièrement avec la Fondation Robert Schuman le débat européen du prix franco-allemand du journalisme et du prix franco-allemand des médias. Et au nom de Pascal Joilin, directeur de la Fondation Robert Schuman à Paris, je peux vous dire que nous sommes ravis et particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui des panélistes particulièrement important et essentiel pour mener cette discussion. J'en profite pour remercier Madame Rehlinger, ministre-présidente de la SAR, présidente aussi du Bundesrat et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, chargée des relations culturelles franco-allemandes. Merci à Martin Grasmuck, intendant du Saarländischer Rundfunk et président association du prix franco-allemand du journalisme de Saarbrück. Et merci à Pierre Aski, qui nous a fait plaisir de faire ce voyage jusqu'ici. Pierre Aski est journaliste à France Inter et président Reporters sans frontières Paris. Hélène Cole est journaliste et va animer ce débat ce soir. Hélène, je peux le dire, on ne peut plus s'imaginer une discussion de ce type sans votre présence. Hélène, vous êtes également journaliste au podcast qui a été créé avec la Fondation Genshagen et nous avons de cette manière et en coopération avec vous, contribuer à notre échelle à ces informations et cette média. Merci aussi à la Fondation Robert Schuman ainsi qu'à la représentation de la SAR ici à Berlin. Nous avons tous coopéré dans de très bonnes conditions et merci à vous tous d'être venus ici aujourd'hui pour suivre cet échange avec nous. Et merci également à Marie Augère qui a organisé cet événement durant ces dernières semaines, ces derniers mois, qui s'est fortement impliquée pour que cet événement puisse avoir lieu aujourd'hui. Merci et je passe la parole maintenant à Hélène pour la discussion. Merci à tous d'être venus.
Tout dans l'esprit du prix franco-allemand du journalisme, je vous propose d'animer cette discussion en français puisque nous aurons donc deux intervenants qui parlent allemand avec Madame Rehlinger et Monsieur Grasmuck, et puis Monsieur Aski qui est donc parti chercher des écouteurs qui parlera français. Je vous en prie, rejoignez-moi. Nous allons commencer tout de suite. Il y a beaucoup à discuter sur ce thème qui est absolument fondamental, nécessaire, essentiel, peut-être. Et je pense que nous sommes dans le public tous à peu près conscients de la situation actuelle. À chaque élection, quelque part en Europe, nous tremblons sur la qualité du débat démocratique, sur les risques éventuels de manipulation. Merci à vous tous et toutes d'être ici aujourd'hui. L'Europe dans le collimateur, renforcer la cohésion à l'ère de la désinformation et des ingérences. Martine, tu l'as signalé, désinformation massive, organisée, transnationale. Encore une fois, ce constat, je pense que nous le partageons, mais ça va même plus loin. Et je cite ici, puisque c'est l'un des partenaires de cette discussion, une étude publiée le 5 mai dernier par la Fondation Robert Schuman, l'Union européenne face au national souverainisme, un nouveau défi démocratique. Et son autrice, Madame Blandine Chélini-Pont, écrit notamment dans cette étude, les empires révisionnistes ont répandu par la propagande et la désinformation leur contre-culture répressive comme des modèles aujourd'hui désirables de cohésion et de stabilité.
Oui, ça marche.
Ça marche, super. Pas de problème. Voilà, on est au-delà de la désinformation pour détruire un modèle. Elle estime que cette contre-culture répressive devient un modèle désirable de cohésion et de stabilité. Et donc, pour cela, trois personnalités qui agissent, chacune à leur manière, à sa manière, pour préserver l'espace démocratique franco-allemand, européen. Merci beaucoup, Madame Anke-Rehlinger, ministre présidente du Land de Sarre, et donc plénipotentiaire pour la relation franco-allemande. Et j'aimerais vraiment bien qu'on entre dans cet aspect-là, parce que ce modèle franco-allemand, il est peut-être aussi attaqué avec, en même temps que ce modèle européen. Monsieur Pierre Aski, journaliste, chroniqueur à France Inter, avec une chronique de géopolitique, et aussi président de Reporters sans frontières. Donc une casquette aussi très intéressante pour la discussion. Et puis monsieur Martin Grassmuck, président, PDG, intendant, dit-on en allemand, de la radio-télévision Saarländischer Rundfunk. Est-ce que, Madame Rehlinger, je voudrais commencer avec vous. Vous avez été confrontée récemment dans votre action en Sarre, en tant que ministre-présidente ou même auparavant, à des épisodes de manipulation et de désinformation qui concrètement vous ont dit, très localement, il ne s'agit plus seulement de la grande image et d'une attaque sur l'Europe, mais très localement, en fait, même là, nous ne sommes plus protégés.
Tout d'abord, j'en profite pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Alors, évidemment que si nous parlons d'une Europe sans frontières, c'est pour moi une évidence de pouvoir vous accueillir ici à la représentation de la Sarre à Berlin et de vous permettre à vous, fondation basée dans le Brandebourg, de pouvoir mener ces débats, cette discussion ici dans ce cadre. Je suis ravie d'avoir été invitée et de participer à cette discussion. Il me semble que le sujet nous passionne et nous intéresse tous. Alors, d'abord, il faut savoir que la désinformation est liée à la question de savoir si et comment nous sommes tous informés. C'est un élément essentiel. Vous avez raison. Il faut qu'en Europe et dans le monde, d'ailleurs, nous regardions un peu partout pour nous rendre compte qu'il y a toujours des victimes de cette désinformation et pour constater que toute personne peut facilement être victime de cette désinformation. Pour ce qui est de la Sarre, je vous dirais que cela ne touche pas uniquement à la Sarre et ne s'applique pas uniquement à la Sarre en tant que lande, mais j'ai vu également quels ont été les effets de la pandémie sanitaire. La pandémie sanitaire qui très vite a permis de nouveau de faire passer des rumeurs à plusieurs échelles. Ça a été quelque chose de systématique, ça a été quelque chose aussi d'accepté tel que c'était dit. On entendait ici et là que ces virus se baladaient un peu partout, que telle ou telle personne était responsable du virus. C'était très difficile de trouver des arguments pour contrer ces dires, ces rumeurs finalement, qui partout étaient présentes. Et une personne ou une autre a d'un coup regardé dans les médias, dans les réseaux sociaux et constaté que telle information avait été transmise et que oui, elle était vraie et ainsi de suite, de sorte que par effet de boule de neige, eh bien finalement, très vite, les rumeurs se répandent un peu partout dans le monde. Et très vite, on constate que c'est la crainte des gens, cette peur en raison de leur état de santé ou autre, qui a permis finalement de continuer à nourrir ces rumeurs et ces propos. Et très vite, on retrouvait les informations via Facebook ou autre. Et à notre échelle, à nous, nous ne pouvions pas aussi rapidement réagir à ces informations, peut-être les remettre en question ou dire tout simplement qu'elles étaient fausses. C'est de cette manière que nous avons constaté, entre autres durant cette pandémie, combien ces informations pouvaient très vite faire le tour du monde. Je crois que c'est la période durant laquelle nous avons vraiment constaté concrètement à quelle vitesse les fausses informations pouvaient être diffusées dans le monde. Et puis, c'est quelque chose aussi de récurrent dans des situations où les personnes ont peut-être des craintes qui les rend plus sensibles et plus vulnérables à ce type d'information. Je crois qu'il y a d'un côté le type de l'information, mais aussi le terreau sur lequel ce type d'information va prendre finalement. Et cela dépend fortement du contexte et de la situation.
Effectivement, le moment du Covid, la fermeture des frontières en l'espace de quelques heures, on a vu revenir très rapidement des réflexes des vieux ressentiments, des choses qu'on pensait avoir derrière nous. Et je voudrais citer ici une petite parabole qui n'est pas de moi, qui vient de Valérie Rozon, qui est une chercheuse belge qui travaille à l'Université catholique de Louvain. Je trouve que c'est bien dans un débat européen de citer aussi nos amis belges, qui disait qu'il y a à Bruxelles un rond-point avec les drapeaux européens. Et sur ce rond-point, il y a beaucoup de vent qui s'engouffre souvent. Et ils ont des problèmes parce qu'il faut sans cesse décrocher les drapeaux et les repasser pour qu'ils soient bien plats. Parce qu'au moindre coup de vent, au moindre tourment de la météo, les plis des drapeaux reviennent et ça se met en tourbillon. Et je trouve que c'est une très belle parabole pour nous dire qu'en permanence, dès que le vent se met à souffler, il faut penser à effacer ces plis pour empêcher peut-être le retour de la guerre. La guerre, c'est le mot que je voudrais vous poser, monsieur Aski. Vous avez donc une chronique de géopolitique, c'est un mot que vous avez beaucoup en bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'utilisation du mot guerre informationnelle? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Ou est-ce que c'est trop fort et qu'il faut plutôt peut-être parler d'un chantage sur notre modèle?
Bonjour à toutes et tous et merci d'abord pour cette invitation. Je suis très honoré de participer à ce débat. Je pense qu'on a affaire à un phénomène qui n'est pas unique, qui est très différent. Et le mot guerre s'applique à une partie de ce champ. Il y a une partie de ce que nous vivons qui est traditionnelle, qui n'est simplement qu'exacerbée par Internet et par la puissance des modes de circulation de l'information aujourd'hui. Mais il y a aussi, évidemment, le fait d'utiliser ça comme une arme. Et donc, on est dans le champ de la guerre. Mais je voudrais vous raconter, moi, ce n'est pas le Covid qui m'a alerté, c'est juste avant, en 2019, et c'est une histoire qui vous concerne en Allemagne. En 2019, il y a eu la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Donc entre la France et l'Allemagne, qui était une remise à jour du traité de l'Élysée de l'époque. Et lorsque ce traité a été signé, il y a un élu régional d'extrême droite français qui a fait une vidéo pour dire « Le gouvernement français a décidé de vendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne ». Alors ça paraît absurde, ça vous fait rire, moi aussi ça m'a fait rire, sauf que ça a été vu par des centaines de milliers de personnes, ça a circulé énormément dans le pays, et ça a alimenté tout un courant xénophobe, d'inquiétude, et en gros de caricature de l'Europe comme étant basée sur ce type de transaction ou de conquête comme au XIXe siècle. Et ce qui m'a le plus étonné à l'époque, et j'en avais fait une chronique pour ma radio, c'est que pendant 3 jours, le gouvernement n'a pas vu cette information circuler. Je pense qu'on était totalement anesthésiés par rapport à la puissance et à l'impact de la circulation de ces informations. Et la deuxième remarque, c'est que personne ne pouvait trouver en ligne le texte du traité d'Aix-la-Chapelle en français. Les services compétents ne l'avaient pas mis en ligne, au ministère des Affaires étrangères à Paris ou autre. Et c'est l'ambassade d'Allemagne à Paris qui m'a donné la version française, parce que je n'arrivais pas à la trouver. Et ce qui est une deuxième erreur, et évidemment, à partir de là, on voyait bien dans le traité qu'il n'est pas question de vendre l'Alsace et la Lorraine, et donc j'ai fait une chronique pour contredire cette contre-information. Et ça a provoqué énormément de réactions sur les réseaux sociaux de gens qui se sont tournés vers moi en disant « Mais vous êtes sûr de ça ?» Des gens qui n'étaient pas habitués à lire et à traiter de ces questions. Et par exemple, un agriculteur du sud-ouest de la France qui me dit « Mais je lis dans ce traité que si l'Allemagne est attaquée, la France viendra à son secours. Mais on ne nous a pas demandé notre avis. » Alors je lui dis, mais vous savez, on est tous les deux, la France et l'Allemagne, membres de l'Alliance Atlantique. C'est prévu dans l'Alliance Atlantique depuis 1949. Il n'y a rien de nouveau dans une clause de ce type. Et ensuite, il revient et il me dit, mais on parle dans ce traité de coopération transfrontalière. Ça veut dire qu'on détache une partie de la France du droit français, etc. Il y avait beaucoup de fantasmes et de peurs et d'incompréhension qui se révélaient dans ces réactions. Et je pense que ça, alors j'en ai fait plusieurs chroniques parce qu'en fait, il y a eu peu de temps après une autre information de ce type. La France a signé le pacte de Marrakech, qui concerne l'immigration. 150 pays l'ont signé, ou plus, je ne sais plus. Ce pacte est une sorte de recommandation de bonne pratique sur la manière d'accueillir les migrants dans un pays. Si on regarde de plus près, ce sont des recommandations, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'imposé aux États. Marine Le Pen prend la parole, elle fait une conférence de presse pour dire « Le gouvernement français s'est engagé avec cet accord à accueillir 1,5 million de migrants supplémentaires ». Cette information fait 3 fois le tour de la France en quelques heures, parce que c'est évidemment une information qui est destinée à choquer. Aucune réaction du gouvernement. Personne n'a lu le texte qui n'avait strictement aucune importance et qui fait partie des textes qu'on signe et qu'on met dans le tiroir du bas du ministère. Et il a fallu, là encore, des jours et des jours pour que ça s'organise. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu pendant trop longtemps avec l'illusion que tout ça n'avait aucune importance. Or, on sait aujourd'hui que ça a de l'importance. On le sait depuis le Brexit. On le sait depuis la première élection de Trump. Et on le sait à chaque crise que nous traversons en ce moment. Et que la désinformation n'est le monopole, hélas, de personne. C'est-à-dire qu'on a de la désinformation par des acteurs politiques qui trouvent un bon moyen de faire du bruit, mais on a de la désinformation qui est faite par des acteurs extérieurs qui cherchent à déstabiliser. Et c'est là que la notion de guerre rentre en ligne de compte et qu'elle est véritablement menaçante. Et je pense qu'on n'a pas encore suffisamment bien expliqué à nos concitoyens que c'était une forme de guerre. Parce que le mot « guerre » a été galvaudé. Emmanuel Macron avait parlé de guerre au virus au moment du Covid. Tout est une guerre. Il y a des guerres commerciales avec les tarifs de Trump. Tout est une guerre. Là, on est dans le cœur de la guerre. Lorsque, après le 7 octobre, vous avez à Paris des tags d'étoiles juives dans tout Paris, et que 3 jours après, on arrête un couple de Moldaves dont le financement pour mener cette opération venait d'un oligarque qui est pro-russe, vous vous dites, là, on n'est plus dans la petite désinformation politicienne, on est dans une opération de déstabilisation qui repère les faiblesses de notre société et qui met de l'huile sur le feu.
Merci beaucoup. Et c'était très bien de rappeler tous ces exemples, parce que j'ai dit qu'on était, je pense, ici assez conscients et on partageait ce constat. Cela dit, rappeler quand même poser quelques jalons, c'est quand même toujours bien d'avoir ça en tête. Les exemples que vous avez donnés au début 2019, même 2020, on va dire, c'était déjà il y a 5 ans. Est-ce qu'on est toujours aussi naïf, monsieur Grasmuck? Est-ce que vous pensez que cette guerre hybride, cette menace, elle est vraiment maintenant prise au sérieux? Vous agissez beaucoup dans vos différentes fonctions, mais votre engagement personnel aussi, pour alerter sur ceci. Que disent les gens que vous rencontrez? Est-ce qu'ils disent « oui, bon, c'est comme ça, on ne peut rien faire » ou bien est-ce que c'est quelque chose qui maintenant est vraiment pris comme une réelle menace et prise au sérieux? Est-ce que c'est une guerre hybride trop sous-estimée peut-être encore?
Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich.
Bien, je crois qu'il faut vraiment accepter le fait que cette désinformation est réelle pour y faire face et discuter de cette désinformation. Et si la société ne comprend pas ce que cela cache, et si la société ne se sert pas des outils dont elle dispose pour sortir de ce cercle, alors la démocratie sera mise à mal. Et avoir cette situation de désinformation et continuer à propager cette désinformation et ces fausses informations n'est pas une aide dans ce contexte. Je crois que si nous n'utilisons pas les bons outils pour embarquer finalement les populations, pour lui proposer de meilleurs outils, de compétences, de lecture des médias, pour que cette population comprenne mieux quelles sont les bonnes informations ou pas, eh bien, nous ne sortirons pas de ce cercle. Je peux aussi donner un exemple qui date de 2015. Un de mes voisins, à l'époque, au moment où tant de réfugiés arrivaient en Allemagne, a eu peur parce qu'il a vu une vidéo et s'est tourné vers mon épouse et lui a dit « Mais écoute, est-ce qu'ils vont vraiment nous prendre nos maisons ?» Et mon épouse lui a dit « Mais que veux-tu dire ? Ce voisin en question était retraité, il avait déjà payé son crédit de sa maison ou autre, mais il était tombé sur une vidéo et voilà, tout avait été remis en question dans son esprit. » Et cela montre que justement, il y a beaucoup de personnes vulnérables et que trop souvent, il suffit d'une fois d'avoir regardé une seule fois une vidéo de ce type ou autre, que les algorithmes aussi de ces sites comprennent qu'on s'intéresse peut-être parce qu'on a vu une fois ce type de vidéo, alors on va nous proposer diverses vidéos sur les mêmes questions, la question de la migration en l'occurrence, et de cette manière on va nourrir la crainte, les préoccupations de ces gens. Et le plus difficile ensuite, c'est justement de dissiper ces craintes, et c'est là que nous intervenons. Nous intervenons en tant que médias, représentants des médias, mais aussi des radios et de la presse en général. C'est ce qui nous incombe à nous, mais c'est ce qui est difficile aussi. D'abord, il y a le fait que d'un côté, nous faisons face à de grands groupes de technologiques qui transmettre les informations à une vitesse jamais vue jusque-là, et puis d'un autre côté à toutes ces propagations d'informations au-delà de ces entreprises. Et je crois que moi j'aurais aimé que nous réagissions plus vite, par exemple à l'époque même du printemps arabe, je ne m'imaginais évidemment pas que très vite toutes ces informations pourraient être réutilisées à mauvais escient, et c'est à nous qu'incombe cette fonction de pouvoir remettre de l'ordre dans ces informations et d'éduquer en quelque sorte ces populations. Je crois que beaucoup de choses ont évolué, et si aujourd'hui nous agissons vite et que nous avons le soutien aussi du monde politique, mais aussi du secteur de l'éducation, alors peut-être que nous aurons moins de difficultés à réussir à faire face à cela.
Ce qui est vraiment intéressant pour nous tous ici, c'est de se dire comment faire, comment réagir. J'ai identifié peut-être trois moyens, et c'est les trois prochaines parties de cette discussion. Donc, comment outiller les citoyens, donc ça c'est la question de l'éducation aux médias, peut-être comment réguler, et puis troisième partie, qui est je pense celle à laquelle il faut vraiment s'atteler, c'est l'invention et la promotion d'un nouveau récit sur l'Europe. Ne pas laisser le récit sur l'Europe à ceux qui veulent la détruire. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui investir ce champ-là ? L'éducation aux médias, premier étage de la fusée, en quelque sorte. Faut-il en faire une matière scolaire obligatoire, avec un programme validé, peut-être au niveau européen même, en tout cas, état par état, lender par lender, il faudra voir ça, avec en tout cas un programme, un emploi du temps. La réponse de la politique d'abord, parce que je pense que je connais la réponse des journalistes.
Also ich glaube, dass es,
Eh bien, je pense que dans tous les cas, il va falloir que ce sujet soit beaucoup plus évoqué dans les écoles, et ce, dans diverses formes. Il ne faut peut-être pas nécessairement créer une nouvelle discipline, une nouvelle matière à enseigner, parce que je crois que nous avons trop souvent tendance à réagir de cette manière, et si à chaque fois nous essayons de créer un nouveau cours, une nouvelle matière à enseigner, eh bien on risque de ne plus avoir le temps pour les basiques que sont les cours de langue ou de maths. À mon sens, il faut se servir des cours qui existent actuellement et évoquer cette éducation aux médias. Par exemple, on pourrait très bien, en cours de mathématiques, justement signaler que quand nous faisons des statistiques, eh bien les statistiques que nous lisons peuvent être aussi des statistiques qui sont fausses ou qui ont été faussées. Ça pourrait être l'une des méthodes pour sensibiliser à cette lecture des médias. De même, dans les cours de langue, on peut très bien expliquer que le choix des mots peut aussi influencer sur l'information à diffuser, que l'on peut, en quelque sorte, par ce choix des mots, par la langue utilisée, par la rhétorique également, influencer et peut-être toucher des cordes plus sensibles de l'être humain, les émotions ou autres. Donc vraiment, donner des exemples où, dans les cours, les matières déjà existantes, on peut aborder cette éducation aux médias, la mettre en avant et en discuter. De même, en cours d'informatique, on pourrait très bien, en étudiant les algorithmes, les statistiques ou autres, évoquer cette question des médias. Je crois que c'est une manière à laquelle on pourrait réfléchir pour aborder ce sujet. Mais pour ce faire, encore faut-il que nous ayons des enseignantes et des enseignants qui soient informés et qui soient en avant, qui soient pionniers déjà, donc qui soient informés avant même les élèves eux-mêmes, donc qui aient une certaine avance. Et ça, cela relève, je pense, de la fonction de l'État ou des autorités, des ministères de l'éducation. À nous d'encourager les enseignantes et les enseignants à se former, à continuer à se former aussi à ces sujets. À mon sens, nous n'en faisons pas encore assez à ce niveau-là. Il faut investir à cette échelle. Comment y parvenir, évidemment? Évidemment, c'est une autre question, mais je pense que dans tous les cas, il est possible d'entrer dans la discussion, dans l'échange avec les élèves. Et aujourd'hui, il me semble que l'essentiel est de miser sur les enseignantes et les enseignants, sur leur formation, de sorte que ceux-ci aient la possibilité d'accéder à l'information avant même les élèves pour pouvoir y réagir. Et je crois que les médias en général, ou la Saarländische Rundfunk chez nous, en l'occurrence dans mon land, contribue à son échelle en utilisant des instruments, des outils, mais aussi la chaîne télévisée ZDF qui a une émission qui s'intitule, je crois, Go Schule, donc aller l'école, où les contenus sont vraiment excellents et proposent des méthodes d'enseignement à réutiliser par les enseignantes et les enseignants. C'est quelque chose de formidable, je trouve, et l'on voit vraiment comment on peut étudier les sources d'informations, comment on peut les évaluer pour savoir si elles sont fiables ou non, pour voir si il y a des moyens de reconnaître l'exactitude et la véracité de l'information par les sources. Je crois que ce sont des méthodes plutôt simples, sans devoir réinventer la roue, des méthodes simples à réutiliser dans les cours.
Vous avez vous-même apporté une contre-question, mais quand l'Allemagne décide d'investir finalement pour les 10 prochaines années des sommes importantes dans ses infrastructures, etc., est-ce que ça ne fait pas partie aussi de l'infrastructure de notre nouvelle souveraineté, Monsieur Grasmuck, d'investir aussi de l'argent dans une vraie formation, des vraies matières, des nouveaux enseignants, Vous, je crois que vous plaidez pour que ça devienne une matière obligatoire. Comment est-ce que vous arriverez à convaincre peut-être la politique ?
Also, ich will das nochmal von vorhin wiederholen. Ich glaube, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche.
Eh bien, je le réitère, il s'agit ici d'un effort commun, de la part du monde politique par des investissements, et ce, très rapidement. Évidemment, il y a plusieurs méthodes, plusieurs voies à suivre. Est-ce qu'on va créer une nouvelle matière à l'école ou est-ce qu'on va évoquer ce sujet dans plusieurs matières existantes? Mais dans tous les cas, il faut qu'il se passe quelque chose. Et chez nous, au Saarländische Rundfunk, nous avons élaboré un module que nous mettons à disposition de tous ces enseignants pour qu'ils puissent y accéder. Et je vais moi-même aussi sur le terrain, je me rends dans les écoles, dans les lycées, je me retrouve devant des classes et je trouve que c'est quelque chose de très important aussi pour sensibiliser ces jeunes et ces élèves à l'utilisation des médias. Parfois, c'est vraiment presque déprimant de voir que quand on est devant ces élèves et qu'on leur demande qui regarde la télé, qui écoute la radio et que l'on constate que finalement, il y en a très très peu, quoique la radio, c'est peut-être encore plus écouté qu'on ne regarde la télé par ces jeunes aujourd'hui, mais Là, je crois qu'on se rend compte de l'importance de déployer tous les efforts requis pour faire en sorte que ces populations, peu importe de quel milieu ces jeunes viennent, puissent avoir un nouvel œil et porter un nouvel œil, un nouveau regard sur l'information. Il est essentiel que nous unissions nos forces pour que ces élèves et les populations en général soient toutes concernées, que nous puissions avoir l'ensemble de la population comme public cible afin que nous sensibilisions un maximum de personnes. Or, cela n'est pas possible si nous nous contentons de dire « eh bien, il faut de la bonne volonté ». Non, il va falloir investir concrètement. Il va falloir aussi que les journalistes soient qualifiés pour pouvoir justement transmettre ces contenus via Instagram, YouTube, TikTok ou autre. Tout cela requiert des investissements, tout cela requiert une implication et un engagement pour y parvenir. Et je le répète, nous y contribuons à notre échelle, mais il faut aussi que le monde politique, la société et d'autres participent à cet effort. Et pour compléter, peut-être que je peux ajouter également que, bien sûr, comme vous le dites, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Il faut impérativement disposer des infrastructures numériques, c'est certain. Maintenant, est-ce que la question de savoir si nous pouvons utiliser les fonds dédiés à l'éducation pour développer ces infrastructures numériques, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, ces infrastructures sont nécessaires. Pour ce qui est du financement, nous avons dans le nouveau contrat de coalition du gouvernement aussi un pilier financement où nous essayons d'aller plus loin encore dans l'investissement dans mes outils numériques. Par exemple, cette émission dont je parlais, Goes Schule, eh bien là, on encourage justement à recourir à ces infrastructures numériques actuelles, mais pour ce faire, encore faut-il dans les classes disposer des outils qui vont permettre cet accès numérique. Et dans tous les cas, nous voulons faire en sorte que pour tout élève, il y ait la possibilité d'avoir une tablette numérique pour que l'élève puisse travailler avec cet outil, pour qu'il ait la possibilité aussi de mieux gérer cet outil, de mieux l'utiliser. Ça, c'est ce que j'entends par infrastructure numérique. De même, il y a d'autres investissements qui vont être impératifs parce que la tablette n'est utile que si effectivement l'école dispose d'un réseau Internet fiable, qu'il existe un réseau Wi-Fi aussi fiable. Tout cela est lié, tout cela est imbriqué et bien entendu, il va falloir pour ce faire donner les moyens financiers aussi à ces écoles de disposer de ces infrastructures numériques. Tout cela n'est pas aussi simple que cela paraît parce qu'il faut développer et élaborer un système, par exemple les manuels scolaires 2.0. Jusque-là, les enfants se rendaient à l'école avec leurs parents avant les vacances scolaires pour rendre aux écoles tous les manuels scolaires empruntés durant l'année. C'est comme ça que cela fonctionnait. Mais aujourd'hui, avec ces manuels scolaires 2.0, eh bien, il nous suffit entre guillemets d'avoir cette tablette et c'est là-dessus que nous aurons tous nos manuels. Donc, nous n'aurons plus à porter, à transporter tous ces manuels qu'il ne faudra plus rendre forcément avant les vacances d'été et autres. Mais cette numérisation du cours de l'école est particulièrement intéressante, mais il faut aller au-delà encore. Il faut proposer aussi non seulement le manuel tel que nous l'avions par le passé entre les mains sur cette tablette, mais il faut aussi proposer d'autres formes d'enseignement, par exemple par les vidéos et autres. Il faut sensibiliser les jeunes à tout ce qui se passe sur les réseaux Internet et je crois que tout cela, effectivement, nécessite que nous investissions à large échelle, mais il me semble que cela est impératif et crucial si nous voulons parvenir à nos fins. Et puis, il faut savoir aussi que de toute façon, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de familles où les enfants ont déjà une tablette, voire même en plus de la tablette, un téléphone, mais il ne faut pas oublier pour autant ceux qui n'en ont pas.
Et peut-être derrière le fait que ça devienne une matière scolaire, c'est qu'on peut aussi avoir un suivi et une validation des acquis. Emmanuel Macron a lancé l'idée dernièrement d'un permis numérique, comme on a le droit seulement à partir de 16 ou 17 ans de conduire une voiture ou 18 ans, on aurait donc une validation d'acquis. Je sais identifier de la mauvaise information, je sais identifier certaines choses. D'autres pays choisissent l'interdiction totale des smartphones dans les écoles. La France le lance là, l'Allemagne n'est pas là encore. Il y a des expérimentations, mais au niveau fédéral, pour l'instant.
Alors, c'est interdit dans les écoles primaires. Il me semble que dans le Land de la Hesse aussi. Pour ce qui est des autres écoles, à partir du collège, c'est un peu plus difficile, mais je crois qu'il faut dans tous les cas en discuter. Mais dans les écoles primaires, nous ne voyons pas la nécessité d'avoir un accès à leur propre téléphone portable. Vous savez, le problème ne se pose pas vraiment vis-à-vis des élèves, mais plutôt vis-à-vis des parents.
Des contenus numériques en classe, on n'est pas à l'abri d'avoir un prof, une prof, qui véhicule de la mauvaise information par conviction politique ou par conviction. Et là, je voudrais que vous parliez, Monsieur Aski, de l'initiative lancée par Reporters sans frontières. C'est ce label d'information de qualité qui permet justement d'identifier des sources qui sont considérées comme fiables, sérieuses, et qui, justement, empêchent cette mauvaise information. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette certification ?
Alors, juste un mot avant sur l'école, parce que je pense que c'est capital pour une raison, parce que nous vivons une rupture générationnelle. Moi, j'ai appris l'univers des médias de mes parents, parce que nous vivions dans le même univers médiatique qui changeait techniquement, mais qui n'était pas en rupture. Or, aujourd'hui, on a une rupture générationnelle avec les outils, avec les formes, les formats, etc., qui font qu'un jeune qui arrive sur Internet aujourd'hui, à je ne sais pas à quel âge on arrive sur Internet, 10 ans, 12 ans, c'est de plus en plus jeune, n'a pas la science infuse, n'a pas la capacité de distinguer le vrai du faux, n'a pas la géographie des médias que moi j'avais quand j'ai grandi, parce que je l'ai vécu dans mon entourage familial. Et cette distinction, elle est fondamentale. C'est que moi, je ne crois pas à l'histoire du permis, mais je crois à l'initiation. Et je pense qu'on a besoin de quand on a 12 ans, on a besoin d'apprendre à faire la différence entre une information non vérifiée que va vous envoyer votre copain et une enquête journalistique qui a mis 6 mois et que sur laquelle ont travaillé 10 journalistes. Voilà, ça ne se découvre pas. Voilà.
Quand on a 72 ans aussi.
Oui. Alors, en France, nous avons déjà la semaine de la presse à l'école. C'est qu'une semaine par an, il y a une thématique autour de la presse qui est dans tout le système scolaire français et dans lequel beaucoup de journalistes interviennent. Des milliers de journalistes interviennent. Il y a des associations qui se sont formées pour aller expliquer le journalisme, aller expliquer ce qu'est l'information dans les écoles. Et il y a des outils qui sont créés pour les plus jeunes. Je vous donne un tout petit exemple, et après je réponds à votre question. J'ai vu l'autre jour un reportage qui était formidable sur... on présentait à des enfants assez jeunes, je pense qu'ils avaient 10-12 ans maximum, une photo d'un crocodile qui sortait d'une bouche d'égout à Paris. Il y a eu des inondations à Paris il y a quelques années, et on leur disait, voilà, cette photo a été prise pendant les inondations, donc il y avait beaucoup d'eau, et un crocodile est sorti d'une bouche d'égout. Et on demandait aux enfants, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc, il y a une discussion entre eux très intéressante sur comment est-ce qu'on sait si c'est vrai. Certains disent, mais il n'y a pas de crocodile à Paris, c'est pas normal. D'autres disent, oui, mais quand même, avec les inondations, peut-être que les eaux se sont ouvertes, etc. Et finalement, le consensus s'est fait autour de l'idée, il y a une photo quand même. Donc, s'il y a la photo, c'est que c'est vrai. Et évidemment, c'était faux. Mais le ministère de l'Éducation a créé un outil très simple pour des enfants de cet âge-là, donc de 10-12 ans, très jeunes. En 3 clics, on peut vérifier si une photo a été manipulée ou pas, si on a rajouté le crocodile ou pas. Et ça, je trouve ça formidable, parce que c'est une manière de créer un esprit critique, de créer une distance avec le fait que une photo n'est pas nécessairement la vérité. Une photo dépend aussi du cadre. Il y a un autre exercice qu'on utilise dans ces cours, dans ces semaines de la presse à l'école. Vous montrez des gens qui rient. Et vous demandez aux enfants, qu'est-ce que vous voyez? Ils vont vous dire, je vois des gens qui rient. Vous prenez la même photo avec un cadre de quelques mètres de recul. Et vous voyez un homme avec une arme qui vise les gens. Donc il les force à rire. Donc les enfants disent, ah, c'est une autre histoire. C'est des gens qui sont forcés de rire. Vous prenez une troisième photo avec encore quelques mètres et vous voyez une caméra. Et donc vous avez le tournage d'un film de quelqu'un qui est en train de forcer les gens à rire. Vous avez trois fois la même photo, la même scène, mais vue avec des angles différents. Et là, vous comprenez un esprit critique sur le fait qu'une photo ne montre pas nécessairement toute la vérité, mais qu'une partie de la vérité. Et je pense que ce sont des exercices qui apprennent à devenir adulte dans ce monde informationnel chaotique. Pour revenir à la question que vous posiez, il y a évidemment plusieurs niveaux de réponse. Il y a le niveau scolaire qui est très important, mais qui est à moyen terme. On forme les citoyens de demain. Il y a le niveau étatique, la régulation gouvernementale, voire européenne, qui existe, qui est aussi très importante, à condition de ne pas être liberticide. Mais la régulation est fondamentale. Et puis, il y a un niveau qui est celui du monde, de l'univers de l'information, donc des professionnels. Et à Reporters sans frontières, on a créé, après pas mal d'hésitations et de discussions, un système qui s'appelle la Journalism Trust Initiative. Le mot-clé, c'est trust, la confiance. C'est comment recréer de la confiance avec l'univers de l'information. Et il y a un groupe de travail qui s'est réuni pendant un an avec des journalistes, des chercheurs, des universitaires, des syndicalistes, etc., de toute l'Europe. Beaucoup venaient des sociétés de médias publics en France, en Allemagne, en Pologne, etc. Et ce groupe a créé les critères d'une information de qualité et qui peuvent être la transparence, par exemple, sur la propriété des médias, le fait que l'information est produite par des humains et pas par des robots, comment on utilise un démenti. Est-ce qu'on l'enfouit très bas ou est-ce qu'on est transparent sur le fait qu'on a dit une erreur, qu'on a fait une erreur la veille. Il y a tout un tas de critères comme ça qui sont relativement objectifs. Et à partir de là, on crée une norme. Comme il y a une norme pour l'électricité qui est déterminée, qui est donnée, attribuée par les sociétés de normes, ça s'appelle ISO en France, je ne sais pas comment ça s'appelle en Allemagne, mais qui sont les normes de par exemple, de la construction ou de l'automobile, etc. Et vous avez une norme du journalisme de qualité. Et c'est un processus de certification par des sociétés indépendantes sur la base de ces critères. Et cette norme, elle vous permet à la fois de dire à vos lecteurs que vous êtes passé par la validation d'un journalisme de qualité. Elle permettait, alors c'était l'idée de départ, de faire que les grandes plateformes, Google, Facebook, etc., l'utilisent, non pas pour censurer les mauvais, mais valoriser les bons. On est dans un monde où, aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, vous faites n'importe quoi. Vous allez créer du trafic avec des fausses informations, des informations spectaculaires, etc. L'idée, c'est de faire que la qualité soit valorisée et qu'elle soit mise en avant dans les moteurs de recherche, par exemple. Le problème, c'est que nous nous heurtons aujourd'hui à la régression des plateformes. Lorsque Facebook, Meta, le groupe Meta, Zuckerberg l'a annoncé il y a quelques mois, supprime le fact-checking épouse la notion trumpienne de cette liberté d'expression à la Orwell, on est dans la régression et on n'est pas dans la valorisation d'une norme de journalisme de qualité. Donc on a cette norme aujourd'hui, il y a plus d'un millier de médias dans le monde qui qui ont déjà cette certification ou qui sont en train de le faire. Beaucoup en Afrique, par exemple, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu un engouement dans un certain nombre de pays africains où il y a une presse un peu chaotique. Et donc la norme permet à ceux qui font du journalisme de qualité de se distinguer, de se valoriser aux yeux d'un lectorat. Voilà, c'est un des moyens. Il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution miracle à la désinformation. Il y a une accumulation de petites touches qui permettront de résorber ce tsunami qui nous tombe dessus. Mais il faut bien le dire qu'on est dans un environnement politique international qui est très négatif et que là où on était obligé de regarder jusqu'à présent du côté de Moscou pour la menace, on doit aussi regarder du côté de Washington aujourd'hui. Et c'est assez paradoxal et inattendu.
Alors, comme nous sommes des vrais cerveaux humains, et nous avons de l'intelligence humaine sur ce podium, juste pour votre information, nous tenons parfaitement bien le timing. J'ai rentré toute ma liste de questions tout à l'heure dans l'ordinateur et demandé à l'intelligence artificielle à quelle heure il faudra que nous commencions notre partie 2, et nous avons une minute d'avance. Donc nous sommes parfaits. Et donc la deuxième partie, c'est donc l'éducation aux médias, première partie, et puis l'autre outil, régulé par la loi. À quelle échelle et qui doit réguler en Europe à l'heure où, effectivement, vous l'avez évoqué, on observe une manipulation autour du mot de liberté d'expression qui va être peut-être détournée à des risques dans des situations politiques. Tout à l'heure, je vous posais la question si c'était une guerre ou un chantage. Et ça sera une question pour vous, Madame Rehlinger, mais on a eu cet hiver une sorte de chantage de Washington. Si vous régulez nos plateformes, alors nous retirons notre protection, j'allais dire militaire basique, ou vous pouvez risquer votre protection existentielle. Est-ce qu'on est pris au piège, nous les Européens ? Quelles sont nos armes, nos outils pour réguler quand même ?
Bien, la réponse à cette question, c'est l'Europe. Si nous avons une possibilité de contrer cela, eh bien, elle ne peut être qu'une concertation à l'échelle de l'Europe. Cela s'applique aux questions commerciales, tout comme cela s'applique aux questions d'approvisionnement de matières premières, mais aussi de politique de la numérisation ou de régulation des plateformes et autres. Idéalement, il faudrait le faire à l'échelle mondiale, bien sûr, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui sera plus difficile à mettre en place. Et si déjà nous pouvions y parvenir à l'échelle européenne, ce serait une bonne chose. Et je pense que pour tous ceux qui gèrent ces plateformes, eh bien, ce serait une possibilité de faire avancer les choses. Il faudrait faire en sorte que les opérateurs, les gestionnaires de ces plateformes s'expriment et prennent réellement leur distance par rapport aux fausses informations. Vérifier ces informations avant de les mettre sur leur plateforme. Et pour ce faire, il existe des acteurs économiques qui peut-être aussi ne sont pas des acteurs économiques qu'il faudrait continuer à propager via ces plateformes. Et pour cela, il faut s'informer sur les sources de ces informations. Et je crois qu'il faut faire en sorte, finalement, que les intérêts économiques des uns et des autres ne soient pas coûte que coûte défendus. Pour être clair, quand on parle de Elon Musk, quand on parle de sa position dans les élections, eh bien, on sait qu'il y a des intérêts économiques derrière. Et quand on sait que sa présence aux États-Unis est soutenue parce qu'il y a des intérêts économiques, alors nous faisons face finalement à une situation où certes, il n'y a pas de fake news, mais où les informations sont juste catastrophiques. Et pour lutter contre cela, il faut impérativement une réaction européenne. C'est à cela que nous devons travailler. Ensuite, il existe des acteurs qui certes, ne recourent pas suffisamment à ces cadres de réglementation et de législation, mais qui, pour leur orientation géopolitique, se servent de certaines plateformes. Si je pense à la Chine, à la Russie, par exemple. Eh bien, dans ces pays, évidemment, il s'agit de mener une guerre de pouvoir, d'influence aussi via les plateformes. Et la question se pose de savoir quel système voulons-nous défendre. Nous vivons dans un système libéral, dans un système de démocratie libérale. Et c'est cette question de la démocratie libérale qui est remise en question. On essaie de la mettre à mal par d'autres acteurs. Alors certes, elle n'est pas parfaite, mais elle suffit à notre échelle pour faire face à certaines menaces du monde. Et je crois que les craintes, les préoccupations des populations sont des craintes que nous devons veiller à dissiper par nos actions politiques, par nos interventions. Et c'est de cela qu'il s'agit, me semble-t-il. Et il faut essayer aussi, dans ce contexte européen, de remettre en question ces fausses informations pour sensibiliser la population. Je crois que il y a en quelque sorte un intérêt géopolitique, une motivation géopolitique et un intérêt économique qui finalement convergent tous vers un objectif, à savoir remettre en question un élément spécial, là en l'occurrence la démocratie. Mais si petit à petit nous voyons que cela se fait à l'échelle européenne, alors peut-être que nous devrions unir nos forces pour faire face à cette tendance. En Roumanie, membre de l'Union européenne, quand on se trouve dans une situation où il faut recommencer, réorganiser des élections parce qu'il y a eu des fausses informations qui ont mené à un résultat tel qu'il doit être remis en question dans le pays, eh bien, cela nécessite aussi une réaction européenne. Quand on regarde l'évolution des élections aussi, ou la situation en Géorgie, moi, je me suis rendue la semaine dernière en Moldavie et je sais que là-bas, au mois de, à l'automne prochain, il y aura de nouveau des élections. Et j'ai échangé là-bas avec des responsables politiques. Et l'on sait très bien que la Russie mène une véritable campagne de désinformation dans ce pays pour également influencer ces élections. Tout cela, ce sont des informations dont nous devons nous servir pour faire de notre mieux afin de lutter contre la désinformation qui risque de se propager dans ces pays. Mais quand on fait face à une influence russe, une influence de pouvoir russe pour encourager des campagnes de désinformation en Ukraine ou ailleurs qui visent à déstabiliser nos démocraties, ces démocraties et par ricochet les nôtres, eh bien il faut que nous réagissions à l'échelle européenne pour y faire face. On ne peut pas se contenter de regarder cela sans rien faire, de fermer l'œil là-dessus, que ce soit Monsieur Macron, Monsieur Merz ou autres, leur visite quelques jours là-bas ne suffit pas à y parvenir. Il faut plus encore, il faut agir. Il s'agit de plus qu'un simple narratif.
Quelles mesures faudrait-il prendre en premier pour réguler? Est-ce qu'on interdit X, les réseaux sociaux, pendant les périodes électorales? Nous, les journalistes, c'est terrible de se dire qu'il faudrait peut-être interdire des médias. C'est pas dans notre ADN d'interdire ou d'entraver la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on fait, Martin Grassmuck?
Ja, ich weiß nicht, ob Verbote weg sind.
Oui, en effet, je ne sais pas si les interdictions sont le meilleur moyen d'y parvenir. Bon, par le passé, on disait que trop réguler, ce n'était pas non plus une solution. Mais en même temps, aujourd'hui, où l'on voit les États-Unis avec leurs grandes entreprises technologiques, nous l'avons vu, qui était autour de Donald Trump durant ces élections. C'était ces mêmes entreprises. Donc il y a de gros intérêts économiques à défendre dans ce contexte. Et je crois que comme il s'agit toujours de plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'influence, et que tous ces éléments se concentrent sur quelques personnes, eh bien nous faisons face à des risques autres. D'après moi, je ne veux pas être pessimiste, mais d'après moi, nous n'allons pas y parvenir de cette manière. Je crois qu'il faut que nous réagissions à cette tendance et que nous en sommes arrivés à un point où les systèmes de médias sont aujourd'hui plus que jamais cruciaux dans nos sociétés. Pour ce qui est de la qualité des médias, nous savons combien il est difficile aujourd'hui aussi de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir mener nos enquêtes, nos reportages. Et ce système des médias est donc soumis à une forte pression. Et à mon sens, il faut que nous fassions de notre mieux pour soutenir et accompagner les médias de qualité. Et il faut aussi que les sociétés accompagnent aussi l'évolution de ces médias. Et les contribue aussi à faire en sorte que ces médias soient de qualité. Je sais bien que je parle un peu dans le vide parce que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, mais moi j'ai vraiment espoir quant au fait que, par exemple, avec Radio France ou d'autres acteurs de médias de qualité, nous puissions avoir cette occasion à saisir de faire face à cette tendance et que nous fassions en sorte aussi d'unir nos forces pour nous opposer à cette médiatisation de fausses informations. Alors je crois que dans le contexte franco-allemand, nous sommes plutôt bien logés à ce niveau, mais il serait bon que ces partenariats et cette action se fassent à une échelle plus européenne encore, si ce n'est mondiale. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de ne pas d'oublier certains publics aussi auxquels nous devrions aussi nous adresser. Et c'est le risque que nous courons. Et c'est la raison pour laquelle je pense également qu'il serait essentiel de faire comprendre aux personnes comment les plateformes fonctionnent. Et j'ai presque envie de dire, puisque nous avons parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, et que cette intelligence artificielle aussi accélère le tout, qu'il est d'autant plus important qu'aujourd'hui aussi nous expliquions comment utiliser cette intelligence artificielle. Certes, elle est utile, mais elle contribue aussi à cette désinformation.
À privé, j'ai travaillé moi-même pendant 20 ans dans un groupe de presse privé en France. Parfois, ça valorise le pluralisme des opinions et le débat démocratique. Et effectivement, on a eu la dérive américaine, et peut-être en France, j'aimerais qu'on en dise quelques mots, parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore très, très, très connu ici. Une situation où certains milliardaires, grands patrons d'industrie, achètent des groupes de presse, et qui s'en servent petit à petit en France, notamment c'est l'exemple de M. Bolloré, pour imposer, peut-être pas un agenda politique, en tout cas un agenda culturel et idéologique. Il y a eu une réaction, alors ce n'est pas passé par une interdiction directement, mais l'État a dit « je distribue des fréquences télévisées, c'est un bien public, j'ai le droit de retirer les fréquences si un certain nombre de critères et de valeurs ne sont pas respectés ». Est-ce qu'il faut à ce moment-là aussi qu'on régule davantage au niveau européen, peut-être Monsieur Aski, pour empêcher cette concentration dans la main de certains acteurs privés? Et puis Monsieur Musk, au début, il y a quelques années, n'était pas le Musk d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on protège nos démocraties face à ça?
C'est une question vertigineuse. C'est vrai que nous assistons à l'échelle mondiale à une sorte de guerre culturelle. De nouveau le mot « guerre » de tout à l'heure, mais qui, au niveau des médias, est évident. Et on a bien vu aux États-Unis le rôle qu'a eu Fox News dans la montée de ces sentiments populistes et qui ont fait le lit de Donald Trump, même s'il n'est pas toujours content de Fox News. Et on a la même chose en France aujourd'hui, où on a un milliardaire qui a un agenda politique, puisqu'il a même soutenu un candidat à l'élection présidentielle qui a échoué, qui est Éric Zemmour, donc encore plus à la droite que Marine Le Pen. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a créé un écosystème extrêmement puissant, avec une chaîne de télévision d'information continue, avec une radio, avec des titres de presse. C'est lui qui a racheté Paris Match et le Journal du Dimanche, qui était un grand nom autrefois, et une maison d'édition, enfin tout un groupe de maisons d'édition, mais une en particulier, Fayard, dont il a fait une officine d'extrême droite, qui a même publié un livre écrit par la patronne de Russia Today, donc média de propagande d'État russe, qui était présente d'ailleurs au Salon du Livre de Paris il y a quelques semaines, et ça avait fait un scandale terrible. Donc on voit bien qu'il y a ce terrain. auxquelles on ne peut pas répondre par l'interdiction. Je pense que ce serait une erreur totale, parce qu'on ne ferait que renvoyer dans la clandestinité ou dans l'ombre cette parole-là. Il faut la combattre par les arguments et la crédibilité. Et par la régulation qui existe déjà. Et là, on a un vrai enjeu aujourd'hui à l'échelle européenne qui est colossal. C'est que la régulation, elle existe. Vous avez au niveau européen des régulations qui sont entrées en vigueur ces dernières années sur le numérique, sur les médias. Il y a le European Media Freedom Act, il y a le Digital Services Act, tous ces acronymes DSM, DSA, etc., qui sont des protections du citoyen ou du consommateur. Et aujourd'hui, ces régulations-là se heurtent à un véritable coup de butoir, vous l'avez dit, des plateformes américaines. Et elles ont aujourd'hui entraîné derrière elles, ou devant elles, l'administration Trump. Il se trouve que j'étais à Washington en février avec Emmanuel Macron lorsqu'il a fait sa visite éclair à Donald Trump. Et il nous a raconté, sur le chemin du retour, que J.D. Vance, pendant le déjeuner qui a suivi les entretiens, n'a parlé que d'une chose, la régulation. Vous devez faire sauter toutes ces régulations. C'est-à-dire que l'objectif numéro un de cet entrisme qu'ont fait les sociétés de technologie dans l'administration Trump, dans la galaxie Trump, c'est de faire sauter les régulations qui nuisent à leurs intérêts. Leurs intérêts économiques, mais leurs intérêts politiques. Et là, on voit bien qu'il y a une convergence aujourd'hui où cette administration Trump, elle est en train de favoriser à l'échelle européenne toutes les forces qui sont anti-Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Samedi, la responsable de la sécurité nationale, sécurité intérieure américaine, était en Pologne et elle a apporté son soutien à l'homme qui a gagné, finalement, le candidat du PiS. J.D. Vance, quand il était ici, on l'a vu à Munich, à l'œuvre. Et il y a quelques jours, j'ai moi-même rencontré deux émissaires américains qui étaient de passage à Paris et qui me faisaient la leçon sur les violations de la liberté d'expression en Europe de l'Ouest. Et dans la même phrase, ils ont réussi à placer la Corée du Nord et l'Europe de l'Ouest. Et lorsque je leur ai demandé à quoi ils faisaient référence, qu'ils donnent des exemples, le seul exemple qu'ils ont pu donner, c'est le fait que Marine Le Pen a été condamnée en France pour l'utilisation des fonds du Parlement européen pour son parti à l'intérieur du pays et qu'elle est sous la menace d'une interdiction de se présenter. Et ce qui n'est pas de la liberté d'expression, c'était le seul exemple qu'ils étaient capables de donner. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, et on est là dans la suite logique de la visite et du discours de Munich de J.D. Vance. Donc on a cette offensive contre la régulation européenne qui est massive. Que va faire l'Europe? Est-ce qu'on est capable de défendre ce qu'on a construit, étant entendu que nous sommes faibles sur ce terrain? Parce que toutes les plateformes que nous utilisons, tous les outils que nous utilisons, ils sont soit américains, soit dans le cas de TikTok, chinois. Pourquoi on n'a pas construit les outils européens? Pourquoi, vous savez, ces derniers mois, avec le rôle d'Elon Musk, il y a eu tout un débat en France, je ne sais pas si vous l'avez eu ici, est-ce qu'il faut quitter X, etc. Et beaucoup de gens ont quitté X pour aller sur Blue Sky, qui est une autre plateforme américaine plus gentille. Mais pourquoi il n'y a pas une plateforme, un réseau social européen qui s'engage à respecter la régulation européenne et qui serait à capitaux européens? On a la technologie, on a les capitaux, ce n'est pas la chose la plus compliquée, c'est plus simple que d'aller sur Mars. Et pourquoi ça n'existe pas? Et je peux vous dire, moi, il y a des millions et des millions de personnes qui seraient aujourd'hui ravies de pouvoir quitter les plateformes américaines pour aller sur un réseau social respectueux des valeurs européennes. Ça n'existe pas, et je pense que c'est notre faiblesse presque congénitale. C'est que on s'est reposé sur cette puissance américaine à tous les plans. la défense évidemment, mais y compris celui de la technologie, et ça nous fragilise aujourd'hui à un moment où il y a cette bascule aux États-Unis qui se fait à nos dépens, parce que nous voyons bien que nous ne partageons plus la même vision du monde que les gens qui sont au pouvoir à Washington.
L'Europe, c'est une histoire de paix. C'est le miracle de la paix. C'est une expérience unique, une réussite unique. Nous avons créé l'Europe pour empêcher de faire la guerre entre nous. Et nous réalisons aujourd'hui que notre modèle, il est du coup un ennemi, un adversaire. Il est devenu, du coup, attaquable et à attaquer, peut-être. D'où cette dernière partie, l'Europe, la souveraineté et le récit commun. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à créer de plateforme européenne? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trouvé le bon récit européen? Et je vous pose la question à vous, Monsieur Krasnick, parce que je me demande si, malheureusement, je ne parle pas d'effet générationnel, si les médias publics traditionnels linéaires ne sont plus adaptés finalement à la création de ce récit. Est-ce que les gens aujourd'hui, ils ne vont pas plutôt chercher une incarnation dans une personne privée, un influenceur, une influenceuse qui porterait un récit positif européen avec un potentiel d'identification? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour inventer ce récit? J'espère pas. J'espère que vous allez dire que non et que vous allez arriver avec quelques bonnes solutions.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn wir.
Juste une question, pardon. Ja. Je réserve quelques temps à la fin pour les questions, n'ayez pas peur. Je garde un œil sur l'heure. La KI m'a dit que je pouvais prévoir 10 minutes pour les questions.
Also, es wäre natürlich schön, wenn wir
Alors, bien sûr, ce serait formidable d'avoir quelqu'un qui puisse développer cette plateforme un peu à la Elon Musk, à l'échelle européenne, selon des règles très claires. Mais à ce jour, je me demande qui. Il faut savoir qu'il était extrêmement difficile aussi d'imiter d'autres plateformes sur le marché. On peut perdre beaucoup d'argent et avoir peu de succès au final. En tout cas, ce sont mes prévisions plutôt négatives, certes, mais face à Instagram ou d'autres, je crois que c'est une mission difficile. Moi, je regarde plutôt ce qu'il en est du contenu. Le contenu, à mon sens, il faut proposer de bons contenus aux populations, aux gens, et c'est quelque chose que nous pouvons faire sur les plateformes déjà existantes. Nous avons en Allemagne les médiathèques, par exemple, des chaînes publiques comme ARD, ZDF ou autres. Donc, ce type de plateformes sont déjà de bonnes plateformes qui fonctionnent aussi comme des plateformes de streaming. Et il faut y contribuer. Moi, je suis membre aussi de Arte. Et je crois que nous devons aussi établir ce type de plateforme à l'échelle européenne. Et là, nous allons déjà dans le bon sens. Et puis, il me semble aussi que de cette manière, nous arrivons à créer un certain cadre, un cadre européen et une gestion de ce cadre européen à l'échelle européenne. Pour Arte, par exemple, on le voit avec la France et l'Allemagne, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien pour les Allemands comme pour les Français. Et peut-être qu'à ce niveau, il faudrait aussi que le monde politique nous permette de créer un cadre plus transparent. Cependant, je ne suis pas entièrement quelqu'un qui est fondamentalement contre cette plateforme européenne. C'est quelque chose que nous ne devrions pas laisser tomber aux oubliettes. Nous pourrions y travailler, mais il y a encore des choses à faire. Et moi, ma volonté, mais c'est dans l'idéal, serait que nous n'essayons pas peut-être d'imiter une plateforme qui existe déjà depuis plus longtemps, mais que nous essayons plutôt d'imaginer à quoi ressemblerait le paysage médiatique dans 5 ans en y incluant ce recours à l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est cela qui devrait nous orienter pour l'avenir. Ce qui se passera à Paris, à Berlin, ça c'est des questions que nous pourrions poser à l'intelligence artificielle, elle y répondra. Mais aujourd'hui, nous devons créer les conditions qui vont nous permettre, dans 5 ans, de pouvoir contribuer à la réponse que va apporter cette intelligence artificielle à ce type de questions. Et à mon sens, c'est la méthode à adopter et à suivre pour nous permettre d'influer cette qualité nécessaire dans ce système, dans ce paysage médiatique qui sera renouvelé à ce moment-là.
Ja, vielleicht.
Madame Rellinger? Oui, eh bien, peut-être que l'on pourrait reprendre l'idée de la Fondation Robert Schuman. Cette année, nous avons célébré le projet de Schuman, de Robert Schuman, et son idée était de dire que plutôt que de continuer à nous acharner les uns sur les autres, pourquoi pas faire en sorte que nous puissions utiliser toutes les ressources dont nous avons. À l'époque, il s'agissait de charbon. Et faire de ces ressources un moyen de créer notre prospérité et de créer la paix en Europe. C'était cela, l'idée, à la base. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si nous ne nous trouvons peut-être pas à ce nouveau tournant, à ce moment où, effectivement, il va falloir se servir des ressources. À l'époque, c'était le charbon, aujourd'hui les énergies renouvelables, où il faut remettre en question peut-être cette unicité, cette unité de l'Europe. Alors, quelle serait la réponse de Robert Schuman à cette question actuelle aujourd'hui, dans le contexte des ressources actuelles? Et je crois que peut-être il dirait qu'il faudrait mieux utiliser ensemble, en commun, ces ressources. C'est quelque chose que nous n'avons pas su faire ces dernières années, et ce pour diverses raisons. Nous en avons parlé tout à l'heure. Il y a évidemment le fait que la situation en Europe, dans certains pays, est différente puisque ces ressources sont dans les mains de entreprises privées ou autres. Et puis on a la question de la gestion du journalisme et des médias selon les pays, et puis la question du numérique aussi. Et je crois que ce secteur numérique ne peut pas être uniquement alimenté par des régulations et des législations, mais qu'il faut essayer, à l'aide des plateformes déjà existantes, peut-être de retravailler ce paysage médiatique avec l'intelligence artificielle. Nous voyons contraints de toute manière de revoir nos systèmes. Nous avons vu, par exemple, chez INRIA, côté français, que cette intelligence artificielle est un outil que l'on utilise aujourd'hui pour revoir nos systèmes. C'est un peu pareil avec le DFKI en Allemagne, un institut basé en Allemagne, donc, qui revoit également cette utilisation de l'intelligence artificielle. Ces dernières années, M. Macron a beaucoup parlé de cette intelligence artificielle, et je crois que c'était une bonne chose. Il faut que nous nous préoccupions de cette intelligence artificielle et que nous en tenions compte dans l'évolution de nos systèmes. Arte a été évoqué. C'est un projet franco-allemand qui, à la base, était franco-allemand et aujourd'hui se développe et doit se développer vers cet esprit européen, ce partenariat européen. Quelque chose que nous faisons aujourd'hui en France et en Allemagne via des structures aussi de financement différentes, mais qui cherchent à grandir pour devenir un véritable projet européen. Nous avons aujourd'hui différents programmes qui sont proposés et qui sont même destinés à des pays d'Europe de l'Est. Et cela est essentiel de par la qualité aussi des contenus présentés, mais aussi parce que nous souhaitons créer ce projet européen, ce projet qui à la base était bilatéral, en faire un projet européen. Et je crois qu'il faudrait aussi que nous voyons, peut-être avec le Parlement, avec la Commission européenne, comment nous pouvons mieux allouer des fonds qui vont nous permettre, à l'échelle européenne, de mieux développer et de rendre plus qualitatifs nos systèmes de médias existants, et faire en sorte que nous complétions la qualité actuelle qui existe déjà par une qualité européenne. Donc fournir en réalité une réponse européenne, quelque chose qui serait 2.0, Arte ou autre, mais qui nous permettrait justement de faire face à la situation avec des financements.
Et le contenu de qualité coûte beaucoup d'argent. On pourrait envisager une redevance européenne. En France, elle a été annulée. Elle dépend maintenant des budgets de l'État. Monsieur Aski, comment est-ce qu'on arrive avec du contenu positif, enthousiasmant,
sans un centime?
Et donc, combien ça coûterait?
D'abord, on est confronté à un paradoxe extraordinaire. Les sondages européens montrent qu'il y a une adhésion très largement majoritaire des opinions publiques au projet européen, à l'idée européenne, et que ça n'a fait que monter depuis l'invasion de l'Ukraine. Donc ça a consolidé cette idée, mais on est, selon les pays, entre jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 80, plus 80%. Or, à chaque élection, on voit bien que le résultat ne correspond pas à ça, puisque des gens qui, dans les sondages, se prononcent pour le projet européen, vont voter pour des partis qui sont eurosceptiques ou souverainistes, voire pire. Et donc, il y a ce premier paradoxe. Pourquoi il n'y a pas d'adéquation entre le vote et l'expression d'une opinion? Ça interpelle, je pense, les partis politiques sur leur manière, peut-être, de parler de l'Europe, qui ne satisfait pas ou qui ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas réussi, depuis des décennies, à créer une opinion publique européenne. On a 27 opinions publiques différentes, et pas une opinion publique européenne. Arte est un petit îlot formidable, vraiment de grande qualité, mais c'est un petit îlot transnational et qui a vocation effectivement à s'élargir, et tant mieux. Mais il n'y a pas beaucoup, les projets comme Euronews, etc., n'ont jamais véritablement eu un impact, et on n'a pas réussi à créer cette opinion publique. Et en ce moment, par exemple, un petit groupe, je ne sais pas si vous connaissez, Le Grand Continent. Le Grand Continent est une plateforme qui est née à Paris. Ce sont des étudiants de Normale Sup, donc l'élite de l'élite intellectuelle. Et ce sont trois étudiants qui ont lancé ça à l'origine, qui sont un Italien, une Roumaine et un Français. Et c'est devenu, en quelques années, un lieu de débat intellectuel de très bon niveau sur les affaires européennes, mais d'excellent niveau. Et surtout, ils essayent de créer des passerelles et de faire exister un débat à l'échelle européenne. Lorsqu'ils ont tous les mardis soirs une rencontre, un débat public à Paris, à l'école Normale Sup, qui est plein à craquer, et les plus grands noms de l'université ou de la géopolitique y vont. Et c'est retransmis dans des campus universitaires avec traduction simultanée à Madrid, à Milan ou à Varsovie. Je sais pas si, je pense qu'ils ont aussi un relais en Allemagne, mais je ne sais pas dans quelle ville. Mais voilà, il y a cette idée qui est compliquée par la tour de Babel européenne, mais malgré tout qui est indispensable, c'est que nos débats sortent de nos frontières et se répondent. Et c'est vrai qu'on a ce problème en permanence que plus le monde est ouvert, plus l'Europe est ouverte, et plus nos débats se rétrécissent à notre échelle nationale, sans tenir compte de ce qui se passe chez le voisin, sans tenir compte même de l'intérêt du voisin, à de rares exceptions près. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire qu'on n'a pas encore trouvé, mais je rejoins l'idée de réfléchir. Et l'IA, de ce point de vue-là, peut être très utile, parce que l'IA est un outil de traduction qui est assez efficace, très utile à inventer le média dans 5 ans, peut-être, effectivement, qui permettra de faire le Schengen de la circulation de l'information. Avec quel argent? Voilà, on est en train de mettre en ce moment des centaines de milliards d'euros dans la défense. Je pense que c'est indispensable. Il y a du retard, il y a nécessité de construire une défense européenne. Mais s'il y avait 1% de cet argent qui allait dans l'univers des médias, je pense que l'univers des médias serait aujourd'hui radicalement différent de ce qu'il est, parce que on trouve toujours des sommes faramineuses pour la défense et rarement pour autre chose. Or, on parle de guerre depuis le début. La construction d'un univers informationnel de qualité et sain fait partie de la défense de l'Europe. Ça me semble absolument indispensable. Et ça me semble indispensable si on comprend ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Parce que de quoi on parle aujourd'hui? On avait jusqu'à présent un ordre mondial qui est celui qui est né après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, qui a été façonné par les Américains en grande partie, avec les Européens dans leur sillage. Et cet ordre mondial, il est contesté depuis des années par des pays du Sud qui n'étaient pas associés, qui n'existaient pas, puisqu'ils étaient colonisés à l'époque où c'est né. Puis ensuite, la Chine et la Russie se sont mis à le contester et à vouloir l'abattre. Et il y avait les États-Unis et l'Europe qui disaient non, non, quand même, restons sur un univers basé sur le droit et pas sur la force. Et puis tout d'un coup, on a les États-Unis qui rejoignent le camp de ceux qui veulent détruire cet ordre international. Marco Rubio, le 19 janvier, la veille de l'investiture de Donald Trump, était devant le Sénat américain. Et il a dit cette phrase, l'ordre international de 1945 est non seulement obsolète, mais il est devenu une arme utilisée contre nous. Nous devons construire un nouvel ordre international, basé sur quoi ? Sur la force. Et donc tout d'un coup, l'Europe se retourne et découvre qu'elle est devenue le village d'Astérix. Je pense que vous connaissez Astérix. L'Europe est devenue le village d'Astérix de la défense de l'ordre international. C'est-à-dire que on est le petit rond là, sur la carte dans un monde qui ne veut plus de cet ordre ou en tout cas qui subit les assauts des plus gros qui veulent le casser. Si on veut le défendre, cet ordre, ou en créer un nouveau basé sur le droit, on doit s'organiser et on doit s'organiser aussi sur le plan de l'information.
Et nous devons le promouvoir avec force dans un monde de gens qui parlent fort, les Allemands ont cette expression, dans un monde de Lautsprecher. Peut-être que nous devons à notre tour être des Lautsprecher de ces valeurs-là. Et je vous tends le micro à vous, puisque je crois qu'il y a des questions dans la salle. Regardez, le micro arrive derrière.
Herzlichen Dank. Merci beaucoup d'avoir organisé cet excellent débat. Je participe très souvent à des événements de ce type à Berlin et je dois dire que ce soir, la discussion a été de grande qualité. Merci. Je souhaite faire deux remarques. D'abord, depuis mon point de vue, quelqu'un qui a été déjà très présente à l'échelle européenne, à l'époque, la Commission européenne a aux représentations des lenders ici à Berlin, systématiquement mener des recherches sur les campagnes de désinformation russes. Il y avait à l'époque déjà des informations qui montraient que ces campagnes de désinformation étaient déjà réelles. Et pourtant, cela n'a pas été suivi à l'époque. Autre remarque. J'ai eu l'occasion d'être en échange avec des écoles, en l'occurrence à Toulouse, le lycée polyvalent, et j'ai eu l'occasion durant 8 ans de pouvoir suivre le système français et le système allemand à l'école. Nous avons pu, par ces échanges, vraiment en apprendre les uns des autres et nous avons constaté que chaque système avait ses avantages. Côté allemand, il y avait l'enseignement de la matière éducation politique, quelque chose qui était plutôt tabou côté français parce qu'on considérait que c'était trop lié à un parti, peut-être, et ce n'est pas le cas chez nous en Allemagne. Bon, je ne vais pas approfondir la question, mais de l'autre côté, dans le système français, l'avantage que moi j'ai pu reconnaître dans le système, c'est que dans le système français, quand on fixe des priorités, vous parliez de la semaine du journalisme, me semble-t-il, eh bien, quand on en parle et qu'on prévoit de le faire, cela se fait en effet. Alors qu'en Allemagne, on reste sur des mots. Et je suis tout à fait d'avis de ce que disait M. Grassmuck. J'abonde entièrement dans ce sens. Il faut commencer dans les écoles, mais il ne suffit pas de peut-être proposer ici et là peut-être le sujet de l'éducation aux médias dans les matières existantes. À mon sens, un prof de maths n'est pas suffisamment bon pour sensibiliser aux médias, pour sensibiliser ses classes et ses élèves aux médias. Il faut plus que cela. On ne peut pas se contenter de coller ici et là des petits morceaux qui vont nous permettre d'arriver à cette fin que nous avons, à savoir sensibiliser les populations. Et je crois qu'il est important de reconnaître cela. Il va falloir que nous créions une matière qui soit entièrement dédiée à ce sujet de l'éducation. Oui, nous connaissons ces programmes de ZDF ou autres, mais à quoi cela sert-il si les enseignants ne s'en servent pas en cours? Point. Nous passons le micro au fond de la salle. Il y avait d'autres questions. Je crois que vous aviez une question, oui.
Bonjour, mon nom est Agnès Voisard. Je suis professeure d'informatique ici à l'université à Berlin, à la Freie Universität, et aussi chercheuse à Fraunhofer. Et au passage, une grande fan de l'émission géopolitique de France Inter le matin. Merci infiniment pour ce panel très intéressant, tellement riche avec ces trois points très intéressants. Alors déjà, en tant qu'ancienne chercheuse INRIA, j'étais très déçue par le flop du moteur de recherche Quant. Ça, vous êtes au courant. Et je me disais, il est peut-être moyen de se rattraper et d'avoir un méta à nous. La question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard d'avoir notre propre méta, notre propre Facebook, ou peu importe, de façon à ne plus être tributaire des États-Unis? Ça ne doit pas être compliqué quand même.
Merci. Étienne François, ancien directeur du Centre Marc Bloch et donc franco-allemand. J'étais moi aussi très impressionné et réjoui par ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé avec des tas de détails concrets et toujours en direction de l'avenir. Alors ce que je voulais vous dire, c'est d'abord qu'il est très important et très réjouissant actuellement que dans la dynamique européenne, la Grande-Bretagne et la Pologne jouent un rôle de nouveau central. Il ne faut pas seulement parler de la France et de l'Allemagne. Deuxième chose, ce que je trouve très important, ce que je proposerai, c'est que dans la formation des enseignants dans tous les pays européens, des enseignants de l'élémentaire jusqu'à plus tard, ils passent au moins un semestre de leur formation dans un autre pays européen et qu'ils apprennent comment dans d'autres pays européens on enseigne et comment ça se passe dans les quarts. Il n'y a que comme ça, je pense, que l'on peut développer progressivement une mentalité européenne. Et je crois que ce serait très important, c'est ce que je souhaite. Et je souhaite enfin que soit créé au niveau européen quelque chose que nous avons échoué lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire des manuels franco-allemands sur l'histoire, qui ont été peut-être intéressants quand on les a faits, mais qui n'ont eu aucun succès. Et donc, il faut s'imaginer quelles pourraient être les possibilités de faire en sorte que les enseignements dans les différents pays européens se rejoignent le plus en plus et tiennent davantage compact les uns des autres. Voilà, merci.
Madame Rehlinger, peut-être, pour répondre.
Madame Rehlinger, oui, peut-être que nous pouvons un petit peu nous répartir pour répondre à ces questions posées. Et je vais peut-être commencer par cette dernière question. Merci d'avoir effectivement souligné l'importance du rôle du triangle de Weimar, parce que, en effet, les relations franco-allemandes sont certes toujours un bon point de départ, une bonne situation initiale, mais si nous voulons vraiment rendre l'Europe plus forte, il va falloir aller au-delà de cet axe franco-allemand et il nous faudra impérativement intégrer d'autres partenaires à cet axe. La Pologne est évidemment un partenaire qui découle de sens, et je crois qu'il faut aussi essayer de trouver une sorte de compromis entre la France, l'Allemagne et la Pologne, mais pourquoi pas aussi faire intervenir d'autres pays, aller au-delà encore. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Donc merci d'avoir souligné ce point. Nous avons vu qu'il y avait eu des élections ce dimanche en Pologne, et que cela a soulevé de nouvelles problématiques. Les résultats nous montrent aussi que nous risquons d'avoir des difficultés aussi prochainement en Europe à ce niveau-là, et nous savons que Ce ne sera pas très simple non plus dans cet axe. Et en tant que présidente du Bundesrat, j'ai également mis le sujet du triangle de Weimar au centre de nos discussions. Et vous avez raison, indépendamment de l'adhésion ou non à l'Union européenne, nous l'avons vu récemment, les questions de politique de défense, nous l'avons vu aussi au sein de l'OTAN, il est important d'intégrer la Grande-Bretagne. Ce format est un format qui connaît un renouveau à ce jour, ce qui est une très bonne chose et certainement quelque chose d'utile aussi. Mais pour ce qui est des manuels scolaires d'histoire franco-allemand, eh bien, je crois qu'il y en a un. Je ne sais pas quel est son accueil, mais je trouve qu'il est bon. Il existe aussi d'ailleurs un manuel d'histoire germano-polonais que je trouve également bon. Et je trouve même mieux encore que nous puissions avoir peut-être des éléments comparables et similaires, des manuels comparables. Vous savez, lorsque dans la grande région, lorsque j'étais plus jeune, que nous nous échangions à l'échelle de la grande région, que nous regardions par exemple ensemble, que nous nous rendions au musée de Verdun, eh bien, d'un point de vue allemand, ce n'est pas chose simple que de se déplacer sur les champs de bataille de Berlin. Or, je trouve que cette mise en commun de ces visites a été quelque chose de très particulier parce que cela va au-delà de l'histoire juste d'un pays. Et moi, en tant que représentante de l'Allemagne, évidemment, j'ai encore plus de difficultés peut-être à jouer ce rôle pour l'Allemagne, mais ensemble, en franco-allemand, nous pouvons nous rendre sur ces terres et ensemble visiter cet endroit pour rappeler qu'il est impératif que nous ne revivions pas ces événements, que nous ne revivions pas cette histoire. Et pour cela, eh bien, il est impératif aussi de s'y rendre en commun. Et je crois qu'au-delà du manuel d'histoire, peut-être que nous pouvons aussi poursuivre cette coopération à d'autres échelles. Oui, et si je peux compléter, je vais revenir sur quelques-uns des points qui ont été évoqués dans les questions diverses. Les campagnes de désinformation russes que vous avez évoquées tout à l'heure, et vous disiez qu'on sait depuis longtemps qu'elles existent. Effectivement, pour moi, c'est un véritable mystère. Dans Reporters sans frontières, j'étais impliquée en 2007 ou 2008, je ne sais plus. Nous avions des prix aussi dans notre région en faveur de cette démocratie allemande. Et nous avions aussi Reporters sans frontières qui, à l'époque, s'était vu décerner un prix. À l'époque, il s'agissait de saluer le travail effectué suite à l'assassinat via Poutine, on le sait aujourd'hui, via la Russie, de cette journaliste. Et la question était aussi de savoir reconnaître le travail effectué dans ce contexte à l'époque. Mais aujourd'hui, on se dit, mais si on savait tout cela à l'époque, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu, à l'époque déjà, faire quelque chose pour éviter que cela ne se développe comme ça, pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui? Et à l'époque, déjà, moi j'avais travaillé avec mon prédécesseur sur la remise de ce prix, et effectivement, il y avait des informations qui étaient déjà connues, et nous savions déjà en Europe que cette propagation commençait à l'échelle de la Russie. Or, nous avons en quelque sorte raté le coche, et le résultat, nous en avons parlé ici aujourd'hui, à savoir que nous avons vu que dans divers pays, les élections sont souvent influencées, et très souvent, les résultats montrent que nous faisons face à des sociétés fort divisées. Hier en Pologne, les élections ont été telles que victorieux s'en est sorti, mais que de justesse en réalité. Et c'est cela qui ressort de ces élections dans les différents pays européens aujourd'hui. J'aimerais donc dire et rappeler que l'Europe déploie beaucoup d'efforts effectivement pour la défense et pour dans d'autres secteurs. C'est vrai que les Américains ont décidé d'aujourd'hui de suivre une autre stratégie. Ils le disent haut et fort, et L'Europe et les démocraties occidentales ne vont pas pouvoir se contenter d'une défense via des drones et autres, mais il va falloir aussi que l'Europe s'arme via des démocraties fortes pour faire face aux nouvelles menaces mondiales. Et il est important et crucial que nous investissions dans ce sens aujourd'hui.
Monsieur Aski ayant été annulé, et finalement vous avez... Il est annulé. Donc, vous aurez du temps pour discuter. Par contre, M. Grassmuth va devoir partir. Donc, je propose que, si vous avez des choses à dire, qu'on fasse un petit prêt dans un moment peut-être informel.
Alors, je voulais répondre. Alors, il y a une question qui n'a pas trouvé de réponse.
Alors, allez-y.
Qui est la question de madame sur, sur est-ce qu'on peut créer un nouveau Facebook européen, etc. Moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de copier ce qui existe déjà. Je pense que s'il y a des efforts à faire, s'il y a du financement à mettre, il faut le faire sur des sujets de l'avenir. Et donc, on est aujourd'hui au début d'une nouvelle révolution technologique avec les progrès de l'IA, de l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il y a des choses à inventer dans l'univers médiatique pour demain et qu'elles peuvent l'être au niveau européen et non pas uniquement au niveau national. C'est peut-être là qu'il faut faire des efforts. Moi, je suis un grand adepte de... j'ai vécu en Chine et j'ai vu comment les Chinois faisaient ce qu'on appelle le leapfrogging, le saut de grenouille. C'est-à-dire que si vous êtes en retard sur une technologie, ça ne sert à rien de vous épuiser à rattraper votre retard, passer à la technologie suivante. C'est ce qu'ils ont fait avec la voiture électrique. Ils étaient en retard sur les voitures à énergie fossile. Et ils sont devenus numéro un sur les voitures électriques en faisant ce saut de grenouille. Faisons le saut de grenouille sur les technologies de ces plateformes et inventons le média européen de l'ère de l'intelligence artificielle. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais, mais c'est un beau défi.
Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange riche, engagé. Porteur d'espoir, peut-être, soyons tous des bonnes grenouilles européennes. Les menaces sont réelles, mais les leviers d'action existent. Encore faut-il avoir le courage politique, une ambition éducative, une volonté, un impératif de coopération au-delà des frontières. Au travail.